La vagabonde, le monde est sur vos ondes.
Je suis Camille en service civique à la radio Info RC. Si vous habitez en Ardèche depuis plus de 10 ans, vous avez sûrement entendu parler des Rencontres des cinémas d'Europe. Le festival se déroule tous les ans au mois de novembre. Cette année, c'est la 26e édition. Nous aurons 80 films à voir, du cinéma expérimental, des rendez-vous et surtout des rencontres. Nous avons l'honneur d'accueillir Cathy Giry pour nous présenter tout ceci. Bonjour.
Bonjour Camille.
Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter ?
Alors, je suis Cathy Giry, je suis la directrice de la Maison de l'Image et la programmatrice des Rencontres des Cinémas d'Europe, directrice artistique aussi du festival. Alors, le rôle sur le festival, c'est la programmation principalement, toute la direction artistique avec les invités, un petit peu le choix, mais qu'on fait aussi en équipe sur les différents autres axes dont nous allons parler, comme la réalité virtuelle ou les impromptus, puis d'autres actions pendant le festival.
Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'organise la programmation du festival ?
Alors, pour l'équipe de la Maison de l'Image, c'est une action en tout cas qui démarre vraiment plus fortement dès le mois de septembre. Par rapport à la programmation, commence un petit peu avant Cannes. Bon, j'ai la chance de faire partie de différentes instances professionnelles qui me permettent de faire partie de comités de sélection de films. Et donc, je vois beaucoup de choses déjà en début d'année et je commence déjà à ce moment-là à repérer des films, à prendre des notes. Puis pendant le Festival de Cannes, j'en vois encore beaucoup et je vais aussi dans la recherche auprès des distributeurs de films qui me paraissent intéressants et au final, je vois peut-être entre 120 et 130, j'ai jamais vraiment compté en réalité, 130 films pour en sélectionner autour de 80 pour le festival.
Voilà. Ça fait déjà beaucoup de choix.
Ça fait beaucoup, oui, en effet.
Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment on a des idées de thèmes pour le festival, pour l'organiser ?
Alors, je crois que les idées, elles se font plutôt avec les envies des réalisatrices, auteurs, donc des cinéastes, parce qu'il y a vraiment des sujets dont ils s'approprient de manière plus forte sur certaines années que d'autres. Ça peut être la question du genre, comme la question du climat, ou des rapports humains, c'est relativement large. Donc moi, de mon côté, je ne vais pas mettre de barrière ou je ne vais pas sélectionner un film uniquement par rapport au sujet qu'il aborde, mais plutôt aussi sa partie artistique, cinématographique, partie artistique, on va dire. Donc il n'y a à la base pas de thème. L'idée, c'est de pouvoir montrer toute la diversité de la production européenne, notamment. Et après, effectivement, les cinéastes ont tendance parfois à s'approprier plus certains sujets que d'autres et donc on peut retrouver une espèce de des fois thème fil rouge sur une année mais en fait moi j'essaie d'être le plus éclectique possible. D'aborder un peu tous les thèmes parce que au quotidien ça fait partie de nos vies en fait donc c'est bien d'être plutôt raccord même si le cinéma c'est fait aussi pour se divertir et rêver et pas forcément se retrouver dans une forme de réalité qui peut être un peu des fois violente ou choquante. Malgré tout, ça fait partie quand même aussi de l'histoire de certains films et donc j'essaie d'être raccord aussi avec l'actualité et les faits de société.
Est-ce que vous pourriez nous dire à qui est destiné ce festival ?
À un très large public. Voilà, le plus large possible pour nous. Ce qui importe, c'est qu'on puisse accueillir des enfants dès 2-3 ans au cinéma jusqu'à tous ceux qui peuvent venir au cinéma facilement encore en marchant ou comme ils veulent à plus de 100 ans. En fait, c'est vraiment très large. On a envie que justement le cinéma puisse accessible à tous et à toutes. Vraiment, on travaille cette programmation pour que ce soit ça. Donc il y a des films pour le jeune public, il y a une sélection aussi qu'on flèche 15-25. Bon, c'est pas pour dire attention, si vous avez plus de 25 ans, n'allez pas voir ces films. Non, c'est vraiment une sélection qui est faite pour que les 15-25 sache que ça va être un sujet, un film, un genre cinématographique qui va leur parler, bien sûr que les autres aussi peuvent aller voir ce film, mais c'est histoire de flécher un petit peu mieux aussi une forme de cinéma. Puis après, il y a un large choix pour les adultes.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut préciser qu'il y a le pass région et le pass culture qui sont acceptés pendant les rencontres ?
Bien sûr, c'est très important, effectivement, comme tu as raison de le souligner. Cette accessibilité dans la programmation, elle doit être aussi réelle en termes de coûts et de tarifs. Effectivement, le pass région est accepté. Donc, je rappelle, c'est une prise en charge de 4 euros par la région et sur 5 euros. 1 euro seulement qui revient aux jeunes pour payer. Il y a le pass région, il y a la part collective qui fonctionne comme la part individuelle. Là aussi, des accès très faciles aux séances. Et puis après, on a aussi des petits tarifs pour aller voir les films quand on a un certain âge.
On va rentrer dans le vif du festival. Mm-hmm. Comment va se dérouler l'ouverture de ce festival ?
Alors, l'ouverture, elle a lieu le 16 novembre. On va commencer au Centre Le Bourneau à 17h30, où là, on accueille tous ceux qui souhaitent entendre un petit peu ce qu'on a à dire sur la programmation, remercier toutes les équipes, que ce soit les équipes de la Maison de l'Image, du cinéma Le Navire, tous les bénévoles qui travaillent avec nous, puisqu'il y en a autour de 150, tous nos partenaires aussi qui nous soutiennent. Donc c'est un temps important, même s'il y a des discours, que ça peut être long. C'est une phase par laquelle il faut passer, parce que ce festival, il existe grâce à la volonté de personnes de manière très large, que ce soit le bénévole, en passant par les salariés, les équipes salariées et les financeurs aussi, en tout cas ceux qui nous aident à faire que cet événement existe. Donc c'est la ville d'Aubenas, le département de l'Ardèche, la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis aussi d'autres partenaires privés. Et ensuite, on se retrouvera à 20h au cinéma Le Navire pour le film d'ouverture qui s'appelle Bonjour l'asile, qui est un film réalisé par Judith Davis, qui était venue présenter son précédent et premier long métrage qui s'appelait Tout ce qui me reste de la Révolution. Là, elle revient avec un film drôle mais assez percutant sur nos habitudes de vie et un fait de société ou d'habitude de vivre d'une certaine façon, de faire des choix de vie, de se retirer de la ville par exemple. Je ne vais pas tout dire du film, mais c'est un film très intéressant de ce point de vue-là. Donc elle sera accompagnée par Claire Dumas, qui était aussi dans le premier film, et par Simon Bacouche. Et donc ce qui est intéressant avec Judith Davis et puis sa troupe, c'est qu'ils font aussi du théâtre. C'est un collectif, hein, L'Avantage du Doute, qui travaille de manière simple, on va dire. Il n'y a pas de chef. Ils ont vraiment une façon d'articuler, de vivre de leur art d'une certaine manière, où tout le monde est productif, tout le monde propose, a des propositions de mise en scène. Enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de ce point de vue-là de travailler. Et voilà, donc je suis très contente qu'ils viennent nous présenter ce second long métrage. Et la soirée, elle se poursuivra au Centre Le Bourneau. On reviendra au Centre Le Bourneau pour une soirée disco avec Babar. C'est un groupe qui chante en français sur des musiques anglo-saxonnes qu'on connaît.
Cette année, il y aura donc plusieurs thèmes abordés au long du festival avec des axes de vision différentes selon les films. Et il y aura les rendez-vous pendant les rencontres des cinémas d'Europe. Ils nous montreront les dessous de la production d'un film. Et pour commencer le festival, il y aura l'histoire de Folle Image, le studio d'animation situé à Valence. Ce sera le samedi 16 à 15h et ce sera présenté par Jacques-Rémy Girard. Qui est-il ?
Alors Jacques-Rémy Girard, c'est un grand monsieur de l'animation et qui a effectivement monté les studios Folle Image, l'école de la Poudrière, des résidences aussi. Et l'idée de ce rendez-vous, c'est d'expliquer un petit peu aux gens que le cinéma d'animation, enfin comment ça fonctionne déjà, enfin comment lui son parcours a été. Donc on reviendra dans le détail sur son parcours et le fait d'avoir été avant-gardiste et précurseur en plein de choses dans le cinéma d'animation et dans le cinéma tout court. Et c'est vraiment revenir sur sa carrière et donc la création de Folle Image, tout le reste autour. Mais c'est vrai que c'est aussi parler de l'animation et expliquer aux gens et que l'animation, ça n'est pas que pour les enfants. Et lui, c'est vraiment un très bon exemple, parce que quand il réalise aussi bien Tontilda, Miaou Miaou, ou La prophétie des grenouilles, en tout cas, c'est vraiment le cas sur Tontilda, c'est que vraiment là, il s'adresse à un large public, en fait. Et il n'aime pas forcément qu'on réduise ses films à des films jeunes publics, une appellation film jeune public. Non, c'est vraiment... Lui, il a envie que les films qu'il fait, même s'ils passent par l'animation pour les réaliser et pour les illustrer et les mettre en scène, les raconter, c'est un film qui s'adresse à tous. Et ça, c'est très important.
Justement, les films de Jacques-Rémy Girard sont disponibles si vous avez entre 6 et 106 ans, voire plus.
Justement, c'est un petit clin d'œil à sa volonté de ne pas mettre d'âge sur ses films. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre assez large pour être tranquille, effectivement.
Il vaut mieux. On vous conseille d'aller voir.
Donc, Jacques-Rémy Girard, c'est vrai qu'à l'instar de Michel Oslo l'année dernière, on voulait vraiment lui rendre hommage, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des films il y a ce rendez-vous du samedi à 15h pour revenir un petit peu sur l'histoire de Folimage, grande et petite histoire de Folimage. Le lendemain, il y aura un rendez-vous autour de la... Alors, le matin de l'enfant au grelot, l'après-midi de la prophétie des grenouilles. Alors, on avait envie de montrer plusieurs de ses films et vraiment lui rendre hommage par rapport à tout le travail qu'il a mené dans le cinéma d'animation.
Et donc, le dimanche 17, ce sera à la librairie des rencontres. Oui. 11h30.
Oui, alors à la librairie des rencontres, là, ce sera, c'est vrai que ça va s'adresser peut-être plus à un public adulte, justement, parce que Jacques-Rémy Girard, maintenant, fait des petites histoires qui s'adressent, qui sont plus sur des faits de société, un petit peu avec des croquis un peu plus caricaturales de gens, et il va d'ailleurs s'amuser à croquer les gens qui viendront le voir, le rencontrer ce dimanche matin et peut-être acheter des livres qui seront à disposition. Donc ce sera une autre facette que ce qu'on aura vu la veille.
Et du coup, la projection l'après-midi à 14h de La prophétie des grenouilles est suivie par une rencontre avec Jacques-Rémy Girard.
Exactement.
Au cinéma Le Navire.
Au cinéma Le Navire.
Et l'année dernière, comme vous l'avez dit, vous avez invité Michel Oslo. Mm-hmm. Et c'est peut-être pas le cas, mais moi j'y vois une sorte de continuité vers l'animation. Est-ce que c'est une piste de découverte que vous proposez pour le public, une replongée dans l'enfance un petit peu avec l'animation ?
Pas seulement, justement, parce que c'est cette envie de montrer, et d'ailleurs la programmation le confirme, il y a de plus en plus de films d'animation pour adultes. On le voit avec Sky Dome 21-23, avec Flo, avec La plus précieuse des marchandises. C'est vraiment une forme de narration qui va être choisie par des cinéastes pour plusieurs raisons. Hein. Si on écoute Michel Hazanavicius, il va dire qu'il s'est servi de l'animation parce qu'il n'aurait pas vu, lui, il ne se serait pas vu réaliser un film de fiction. Il avait l'impression que ça allait être beaucoup plus choquant. Bon, il y a déjà eu des films quand même qui ont parlé de la Shoah en version fiction et qui sont relativement violents et difficiles à voir. Et lui, il a trouvé dans l'animation une façon de, on va dire, il minimise pas les faits, mais une façon un petit peu moins violente peut-être de raconter cette histoire. Ça, c'est sa façon d'avoir choisi l'animation. Pour d'autres, ça va être encore un autre souhait, une autre volonté. En tout cas, l'animation, ça n'est pas se dire que c'est fait pour les enfants. C'est aussi se dire que on peut être grand et aimer voir des films d'animation. Ça ne s'adresse pas que au public enfant. Et donc nous, ce qu'on a de plus en vue envie de développer, c'est plutôt ce fait-là. Bien sûr que quand on a 2-3 ans, on n'a que du cinéma d'animation à se mettre sous les yeux. Et c'est un début, et c'est bien. Et puis quand on grandit, voilà, on voit d'autres choses, on voit de la fiction, on voit... Mais entre les deux, et même quand on est grand, on peut encore continuer de voir du cinéma d'animation. Et puis cinéma d'animation, c'est large. Ça ne sont pas que des dessins animés. Ça peut être du stop motion, ça peut être plein de formes différentes. Ça n'est pas uniquement du dessin animé. Donc c'est faire évoluer un petit peu aussi les habitudes ou les idées reçues qu'il pourrait y avoir. c'est ça qui nous intéresse.
Les styles de dessin aussi différents dans les films.
Oui, bien sûr. Le graphisme qui peut être différent. Et puis, il y a des films aussi qui mélangent un peu les genres. Il y en a pas mal aussi qui dans une histoire fictionnelle, mettent des temps d'animation pour illustrer. Ça arrive de plus en plus et c'est tant mieux.
En parlant de style d'animation, il y a Lucille Piquenot qui viendra nous parler des différents styles de dessin dans l'animation. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'elle fait un petit peu?
Alors, Lucille Piquenot, elle travaille à l'Association française du cinéma d'animation, l'AFCA, au niveau national. Elle est plutôt sur la partie médiation, justement, pour avoir cette approche un peu pédagogique qui va s'adresser à un public assez large pour revenir justement sur ce que je suis en train d'expliquer. Peut-être elle va le faire beaucoup mieux que moi, justement sur un peu l'histoire du cinéma d'animation, puis comment les cinéastes s'approprient l'animation pour raconter des histoires.
Ce sera le samedi 23 à 16h au navire, donc pour clôturer un peu cette boucle d'animation. Ensuite, pour passer derrière la caméra, nous vous découvrirons Valérie Valero, qui est une chef décoratrice. Elle sera là le lundi 18 à 14h au navire et lors d'une rencontre à 19h30 le même jour. Est-ce que vous pourriez nous la présenter?
Oui, alors Valérie Valero, c'est une grande chef décoratrice qui est surtout maintenant connue et réputée par rapport au label d'éco-conception. En fait, son travail, c'est de pouvoir mettre en place des équipements de décoration, utiliser des matériaux qui sont éco-responsables, qui vont dans cette lignée-là. Un tournage, par exemple, c'est 5 tonnes de déchets. Et elle, son but, c'est de s'approcher de zéro déchet, en fait. Hein. Et c'est vraiment sa démarche, et c'est ça qui est super, c'est qu'elle va pouvoir nous en parler de manière beaucoup plus approfondie. Et elle a eu ce label d'éco-conception pour le film Maria de Jessica Palud, qui est sorti cette année et qui sera reprogrammé aussi pendant les rencontres, où en dehors du fait qu'il fallait son travail sur l'éco-conception, c'était aussi un travail qu'elle a dû faire de à la fois remettre en scène un film qui existait, Le Dernier Tango à Paris, mais sans copier les scènes réelles du film parce qu'ils n'avaient pas les droits. Donc c'est ce qu'elle va aussi nous raconter. Et après, son travail sur Olympe, Une femme dans la révolution aussi, un film qui sera présenté sur lequel elle a travaillé. Il y aura un troisième film aussi, Jumbo, de Zoé Witok qui sera programmé. Donc c'est vraiment une facette qu'on connaît assez mal dans les métiers du cinéma, et à travers ces rendez-vous, c'est la possibilité d'aller un peu plus profondément dans des métiers de cinéma, et où il n'y a pas seulement les acteurs et les cinéastes, enfin, ou les actrices. Il y a aussi plein de techniciens, il y a plein de gens qui travaillent autour d'un film. Et sa démarche nous a vraiment intéressés. C'est pour ça que nous l'avons invitée.
Et le cinéma ne serait rien sans la musique, évidemment. Mm-hmm. Vous allez donc inviter Philippe Forget et Nicolas Gouge pour se plonger dans l'univers de la musique au cinéma. Qui sont-ils et que font-ils pour nous présenter?
Alors, Philippe Forget et Nicolas Gouge, ils sont tous les deux chefs d'orchestre et compositeurs. Ils ont une place particulière dans cette programmation parce que nous allons aussi commencer à travailler ensemble sur un projet qui verra vraiment le jour en 2026, on va dire. C'est un travail avec l'association Labo Mon Musique et les écoles de musique d'Aubenas sur un projet de ciné-concert où on va monter un groupe de volontaires, musiciens, on va les réunir. On a le film qui s'appelle Un enfant qu'à leur tête, qui est une série de petits films qui illustrent soit des femmes, soit qui ont été réalisés par des femmes. Il y a notamment Alice Guy, la première femme cinéaste de l'histoire du cinéma, qui fera partie des courts-métrages. Et l'idée, c'est de créer, de faire une création musicale sur ces films et d'apprendre à des jeunes et des moins jeunes, puisque ce sera là aussi l'idée c'est d'avoir un large public, enfin de participants, comment se passe la composition de la musique d'un film. Donc Philippe Forget et Nicolas nous font le plaisir d'être présents sur un temps qui va être super aussi pour nous parler de comment la musique a rejoint le cinéma. Et on sait effectivement que dès les premiers films, tant que le cinéma n'était pas parlant, il était accompagné au piano par exemple. On va balayer un petit peu l'histoire du cinéma et de la musique au cinéma.
Et justement, en parlant de musique au cinéma, vous présentez une sorte d'hommage en mettant à l'affiche le film sur Michel Legrand. C'était Il était une fois Michel Legrand, je ne me trompe pas.
Oui, alors ça permet d'illustrer pleinement et formidablement ce rendez-vous avec Philippe Forget et Nicolas Gouge, parce que Michel Legrand, c'est un des plus grands compositeurs de musique du film et musicien au monde. Hein. Il a travaillé aussi bien en France qu'aux États-Unis et plusieurs fois oscarisé. C'est un monsieur incroyable et le film lui rend vraiment hommage et on découvre vraiment qui il est. Évidemment, moi, je suis pas très objective parce que je suis particulièrement fan et je ne suis pas la seule du travail et des musiques de Michel Legrand. Donc, c'est un grand plaisir que de présenter ce film aux rencontres.
Mais en tout cas, si vous voulez découvrir ou redécouvrir Michel Legrand, vous pouvez y aller le mardi 29 au Centre Le Bourneau à 15h pour finir les rendez-vous des rencontres des cinémas d'Europe. Un film ne serait rien sans une histoire et Baya Kasmi nous racontera son parcours et son écriture autour du scénario le jeudi 21 à 11h au cinéma Le Navire. Qui est-elle ?
Alors, Baya Kasmi est réalisatrice maintenant et scénariste hein, toujours, bien entendu. Mais c'est vrai que là, elle présente son troisième long métrage. Elle a commencé en fait auprès de Michel Leclerc, qui est un cinéaste aussi assez connu. Ils ont fait Le Nom des gens ensemble, que lui a signé en tant que réalisateur, mais dont elle a écrit le scénario. C'est avec lui en fait qu'elle s'est dit tiens, j'ai envie d'écrire. Comment faire ? Et donc elle va nous raconter son parcours précisément, comment ça se passe l'écriture d'un scénario, comment ça évolue. Est-ce que c'est important qu'il existe ce scénario ? François Truffaut disait qu'un scénario ça servait uniquement à trouver des financements et qu'il fallait bien avoir quelque chose à montrer aux producteurs pour pouvoir faire que le film existe, mais que finalement ce scénario il évoluait tout le temps. Et même sur un tournage, il y a certaines scènes qui sont écrites qui ne se font pas ou inversement. Donc c'est aller savoir avec elle un petit peu comment elle travaille et est-ce que c'est quelque chose qui sert aux producteurs ou c'est vraiment nécessaire d'avoir un scénario. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on verra. Et puis elle aussi, elle a une façon particulière d'écrire les personnages. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'il n'y a pas de personnages vraiment secondaires. Je trouve qu'ils sont toujours très bien écrits aussi, pas que les premiers rôles, quoi. C'est ça qui est bien aussi dans son écriture.
Ils sont tous importants.
Oui, en tout cas, quand elle met des personnages dans ses histoires, ils ont tous leur importance, quoi. Et c'est pas innocent, donc. Ce qui n'est pas le cas tout le temps.
Durant ces rencontres, vous allez aborder aussi le thème du climat. Pourquoi est-ce que vous en parlez, finalement ?
Alors, pourquoi on en parle ? Parce que c'est important. C'est, c'est quand même le sujet. Puis alors là, doublement, entre les inondations actuelles en Espagne, qui sont terrifiantes, et puis ce qu'on a eu, nous, il n'y a pas très longtemps aussi dans les différents départements. Bien sûr que c'est un sujet très important que l'on retrouve dans énormément de films quand même. Alors des fois de manière en version, on va dire, anticipation, mais ça peut être peut-être aller plus loin que ce qui se passe maintenant, pour un peu faire peur aux gens. Et puis, des fois, c'est la réalité qu'on connaît. Donc, il y a un petit peu de tout dans le cinéma qui peut se faire. Et c'est vrai que là, dans la programmation, entre les films de Jacques-Rémy Gérard, par exemple, qui très tôt a parlé de cette thématique-là, ou le film d'animation, mais tu vas en parler, je pense, de Flo, ou alors Sky Dome 21-23, puis on a aussi des films de la réalité virtuelle qui abordent le sujet. Bon, c'est vraiment une thématique qui est dans la tête des cinéastes, ils ont envie de raconter des histoires qui peuvent être, voilà, comme je disais, plus ou moins imaginées, inventées, mais basées sur des faits réels, on va dire.
Exagérer la réalité de maintenant.
Oui. Ouais. Et des fois, ça peut être l'inverse. Mais c'est vrai que c'est très important. Donc nous, on avait déjà travaillé à la maison de l'image. On avait déjà accueilli Nelly Ponce sur une projection. Comme nous travaillons aussi tout au long de l'année avec le parc des Monts d'Ardèche, on a eu envie, effectivement, de mettre en place un temps d'échange qui fera suite à un film. Mais comme il y a plusieurs films qu'on incite le public à aller voir pendant la semaine, on pourra parler plus largement de où on en est maintenant avec cette question du climat et est-ce que le cinéma a raison de s'approprier ce sujet.
Quoi en parler devient aussi comment en parler autour de la table ronde avec Anne-Sophie Novel et Nelly Ponce le samedi 23 à 17h. Donc vous proposez 6 films autour de la thématique du climat, dont un en réalité virtuelle, qui est disponible à la médiathèque. Ça s'appelle 2122 China. Un mot peut-être sur les films en réalité virtuelle qui sont proposés à la médiathèque.
Premièrement, nous sommes très contents d'avoir un peu plus développé notre partenariat avec la médiathèque d'Aubenas et le fait que ce soit un lieu à proprement parler phare aussi des rencontres. Ce qui nous importe dans ces rencontres contre des cinémas d'Europe, c'est aussi la circulation du public dans les différents lieux et on voit que ça fonctionne. Donc là, on a vraiment travaillé avec la médiathèque Jean Ferrat pour intercommunal, hein, pour justement proposer la réalité virtuelle. Il y aura aussi des ateliers avec l'association Résonance. Il y aura aussi ce qu'on appelle les dossiers d'écran. Donc on a aussi un temps d'échange autour de l'intelligence artificielle qui se fera. Donc voilà, il y a plusieurs rendez-vous dans la semaine à la médiathèque. Donc il faudra bien sûr en profiter. Et la réalité virtuelle, c'est quelque chose que l'on a mis en place, nous, depuis 2019. C'est un partenariat que nous avons avec Festival Connexion, qui fédère différents festivals en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a fait le pari de la réalité virtuelle. Les images, ça peut être autre chose que du cinéma, que au cinéma, et que c'est aussi une façon de découvrir des histoires de manière un peu différente, plus individuelle, plus personnelle, puisqu'on est seul derrière son casque, mais tout aussi intéressant.
Pour finir sur le climat, en ayant participé au jury Bouche de l'art, j'ai pu voir Flo, qui est un film très touchant, que je vous recommande et que je vous invite à aller voir, passe tout au long des rencontres au navire. Justement, le jury Bouche de l'art a choisi un film, Le Royaume, qui est disponible le 20 novembre gratuitement pour les jeunes de 15 à 25 ans à 14h. Je vous invite à aller écouter une interview à ce sujet avec deux des jurés qui témoignent de leur expérience à partir de ce mercredi 13h sur les ondes d'Info RC. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix de la part du jury?
J'étais très contente que le jury choisisse ce film, même si les quatre propositions j'aimais les quatre propositions hein, qui ont été faites. Le Royaume, ça, c'est un premier film hein, de Julien Colonna qui se passe en Corse, qui effectivement parle de... C'est un film de gangster, comme vous l'avez qualifié, mais pas seulement, et qui revient sur la relation surtout entre une jeune fille et son père, qui fait partie de milieu mafieux. Enfin, voilà, moi, j'étais très heureuse de ce choix. C'est un film qui, pour un premier film, est assez percutant.
Durant ces rencontres des cinémas d'Europe, il y a deux pays qui seront mis à l'honneur, la Belgique et la Finlande. Pourquoi représenter ces deux pays?
C'est un petit peu... c'est à la fois du hasard et pas du hasard. La Belgique, j'avoue que souvent... C'est un cinéma que j'aime beaucoup, qui est assez... qui sait déjà depuis longtemps mélanger les genres. On ne sait pas forcément tellement faire ça en France, finalement. Dans un même film, on va trouver de la comédie, on va avoir un côté mélo, un côté violent, on va avoir... Voilà, quelque chose assez large qui est proposé aux spectateurs avec cet humour noir un peu ou humour belge avec un côté assez décalé et j'avoue que c'est vraiment un cinéma qui m'intéresse depuis longtemps. Donc j'avais J'avais rencontré il y a 2 ans au festival de Clermont-Ferrand une personne qui travaillait à l'agence belge du court-métrage. Je m'étais dit, tiens, ce serait sympa de peut-être mettre quelque chose en place. Puis voilà, on a travaillé à ça. On a travaillé aussi sur la partie jeune public avec Arnaud Demuynck, qui est un réalisateur, scénariste et producteur belge. Donc il sera là avec nous le mercredi. Et puis finalement, voilà, on s'est dit, tiens, ça fait un petit voyage finalement en Belgique avec différentes personnes. Puis là où on est vraiment très content, c'est aussi de pouvoir accueillir Anne Siro, qui est une réalisatrice dont 2 courts-métrages seront présentés à la soirée du 22 novembre. Une cinéaste que l'on suit depuis quelques temps, et au moins 3 ans. J'avais programmé leur premier, parce qu'elle travaille avec son compagnon qui s'appelle Raphaël Balboni. Ils avaient sorti il y a 3 ans Une vie démente, et l'année dernière Le syndrome des amours passés. Elle n'avait pas pu venir à Aubenas, et là elle vient à travers ses premiers courts-métrages, que c'est super parce que ça fait une forme de continuité dont tu parlais tout à l'heure. C'est aussi pouvoir accueillir comme ça des personnes que l'on suit depuis quelques années qui peuvent pas un moment, et puis un jour ça marche et c'est super de pouvoir les accueillir. Donc on a construit ce travail-là autour de la Belgique comme ça. Et puis on aura aussi un petit impromptu qui sera sur la Belgique Attitude, qui sera proposé au Bistrot des Rencontres avant la soirée des courts-métrages. Et puis la Finlande, parce qu'on travaille aussi depuis quelques années avec Irmeli de Barle, qui est une experte en cinéma finlandais et qui a travaillé, qui a été assistante de Coris Maki, et qui organise un festival en France où il y a la Finlande en 3 films, et à qui on a eu envie de donner comme une sorte de carte blanche de films qu'elle aimerait présenter là à ses rencontres. Donc elle revient cette année avec plusieurs films à nous présenter, à nous faire découvrir.
En revenant sur la Belgique, il y aura une rétrospective sur Chantal Akerman.
Oui.
Qui est-elle et pourquoi ce choix de projection?
Chantal Akerman, parce que c'est vraiment une cinéaste un peu inqualifiable qui a bousculé le cinéma en 75 à Cannes quand elle a présenté Jeanne Dielman, et qui a eu de cesse de chambouler un petit peu le spectateur. Elle a travaillé sur différentes formes de cinéma. Elle n'a jamais voulu se cantonner dans une forme précise. Elle a fait du documentaire. Et c'est pour ça que dans ma sélection, c'est une sélection de 4 films sur l'ensemble de la rétrospective qui peut être proposée. Mais c'est à l'image de ses choix à elle, de ne pas se cantonner à un genre, de ne pas avoir de faire des choses très différentes et de montrer des choses différentes. Donc ça va du documentaire à la comédie musicale et à aborder aussi des sujets. Sur Jeanne Dielman, on est vraiment sur une femme, c'est 3 jours de la vie d'une femme. On passe ce temps avec elle et on découvre qui elle est, ce qu'elle fait. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez Chantal Akerman, c'est sa notion du temps. C'est-à-dire que, par exemple, elle disait... Elle aimait pas que les gens, quand ils sortaient de la salle de cinéma, disent « Ah, j'ai pas vu le temps passer ». Tu vois, elle est sur se dire « Tu vas le sentir passer le temps que tu vas rester dans la salle de cinéma ». Tu vois, elle prend le truc vraiment à contre-pied. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Et son cinéma est fascinant, quoi. C'est donc une grande, grande réalisatrice.
On a terminé de parler du programme des rencontres. Pour voir ces rencontres, Comment font les gens s'ils n'habitent pas à Aubenas, là où est la majorité des films et des activités?
Alors, ils ont la possibilité d'aller voir, puisqu'on a des séances décentralisées auxquelles on tient beaucoup, aussi bien à Vals-les-Bains qu'à Lussas ou à Tueil. Alors, c'est pas tous les jours, mais enfin, il y en a quand même pas mal qui peuvent permettre aux gens d'être plus près et d'aller voir les films de la programmation.
Et si vous voulez tout de même venir à Aubenas sans voiture ou justement pour faire du covoiturage, voyage. Il y a le service Travelling qui propose un covoiturage vers le cinéma. Vous pouvez vous rendre sur travelling-ciné.fr.
C'est ça, s'inscrire et puis voir comment on peut circuler. C'est vraiment important pour nous on parlait d'accessibilité tout à l'heure, mais c'est vrai que ça permet aussi d'être un peu moins polluant en travaillant sur le covoiturage, et c'est important. Ouais.
Proposer des trajets et demander des trajets, ça fera un bel échange. Que faire entre deux séances de cinéma?
Alors, on peut se restaurer déjà. On travaille avec beaucoup de restaurateurs du centre-ville d'Aubenas, c'est important aussi pour nous. On a l'Escale, un lieu qui est juste à côté du cinéma Le Navire. Et puis, il y a aussi le Bistrot des Rencontres qui se trouve au centre Le Bourneau, avec deux restaurateurs qui sont installés dans la cour du centre Le Bourneau. On peut, bien sûr, on en a parlé, aller tester la réalité virtuelle. Il y a une sieste littéraire, il y a des ateliers, effectivement, média pop qui sont plus autour de la question des discriminations, entre autres. Enfin, il y a un petit thème. Il y aura du défi doublage, il y aura une soirée jeu, il y aura concert, oui, il y a de la musique avec DJ Bonnie and Clude. Il y a la librairie dans des rencontres, à laquelle c'est super d'aller flâner, de se poser, de regarder tout ce qui peut être acheté. Ça, c'est un gros travail qui est fait aussi avec la librairie Le Tiers-Ton, qui est partenaire. Puis il y a le studio de cinéma qui est nouveau cette année, qui sera dans l'Escale d'ailleurs, à côté du Navire, qui est proposé par Gérald Loiseau, où il sera question de décors de cinéma et d'histoire de cinéma. Et l'idée, c'est de réaliser un court métrage en 2 heures.
Peut-être un mot pour la fin?
Un mot pour la fin. J'espère que tout ça a donné envie, et en tout cas donnera envie aux spectateurs d'être aussi nombreux que l'année dernière. On avait une très très belle 25e édition. J'espère qu'on aura une encore plus belle édition, 26e édition en tout cas. Toutes les équipes, que ce soit la Maison de l'Image et Le Navire, fait en sorte d'être le plus attractif possible.
Merci beaucoup Cathy pour tous ces détails. On a hâte que le festival commence. Le festival des Rencontres des Cinémas d'Europe, c'est du 16 au 24 novembre. Évidemment, nous n'avons pas pu parler de tout ce qui se passe et de tous les films. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations des rencontres?
Alors, sur le site Rencontres 2024. Et puis, il y aura des programmes papier un peu partout, aussi dans les commerces, là, des lundis.
Et tout au long du mois de novembre, vous pourrez entendre les films et les rendez-vous des Rencontres des Cinémas d'Europe sur les ondes du 88.6, en général, dans la matinale.
Merci.
Mais c'est un gosse. Eh ben dis donc, mon petit rat, mais qu'est-ce que tu fais là?